Vous écoutez On lit pour vous.
Le programme pour l'accessibilité du métro à l'arrêt. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 11 mai 2024 dans Le Devoir. Une autre tuile de plusieurs centaines de millions de dollars pourrait bien s'abattre sur le transport en commun dans la grande région métropolitaine. Selon les informations obtenues par Le Devoir, Québec n'a toujours pas financé la nouvelle phase du programme Accessibilité, PA, qui permettrait l'installation de nouveaux ascenseurs et d'autres mesures facilitant la circulation des usagers dans les stations du métro de Montréal. Le plan 2024-2028, le troisième PA3, depuis le lancement du programme en 2017, exigerait au moins 300 millions pour des travaux dans 5 nouvelles stations. La Société de transport de Montréal, STM, a demandé des fonds dans le cadre des consultations prébudgétaires 2024-2025. La requête a également été formulée dans le cadre de plusieurs discussions avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, dans les deux dernières années, toujours sans réponse. En date d'aujourd'hui, nous n'avons aucune indication que la phase 3 du programme Accessibilité serait inscrite au PQI 2024-2034, résume dans un courriel Amélie Régis, conseillère corporative de la STM. Évidemment, un désengagement du gouvernement à cet égard aurait un impact important sur l'ensemble des utilisateurs du métro à Montréal et, particulièrement, sur la clientèle ayant des limitations fonctionnelles. Une confirmation de financement se traduirait par le maintien des expertises développées au sein de la STM ainsi que par la poursuite des activités préalables aux mises en chantier. L'Agence régionale de transport métropolitain, ARTM, affirme qu'elle appuie la STM dans ses démarches pour l'accessibilité universelle. C'est un enjeu qui demeure prioritaire pour nos deux organisations, écrit Isabella Brisson-Urdaneta, des relations avec les médias de l'ARTM. Les aménagements pour la mobilité ne seront donc pas réalisés et pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle, résume Marie Turcotte, membre de la table de concertation sur l'accessibilité universelle des transports collectifs de l'île de Montréal. La table demande de respecter les engagements et de poursuivre les investissements du PA. Une campagne de mobilisation sera lancée prochainement pour faire pression sur Québec. Parole, parole. Québec a annoncé jeudi la création de la nouvelle agence Mobilité Infra-Québec pour gérer les nouveaux grands projets. L'Union des municipalités organisait vendredi son rendez-vous national sur l'avenir du transport en commun. La stagnation du programme Accessibilité du métro montre pourtant les énormes défis de financement et l'apparent manque de volonté étatique, ne serait-ce que pour la mise aux normes d'un réseau structurant existant. Une phase subséquente, PA4, pour des travaux dans 5 autres stations de métro d'ici 2030, nécessiterait 270 millions supplémentaires, selon les projections, et pourrait bien, elle aussi, être abandonnée par Québec. Dans ce cas, cependant, la demande formelle de financement n'a pas encore été faite, puisque le PA4 est toujours en planification. Au total, 570 millions devraient donc être consacrés par le MTMD à la mise aux normes d'une partie supplémentaire du réseau d'ici la fin de la décennie. Ces deux projets maintenant menacés permettraient de hausser à 41 le nombre de stations respectant les normes internationales d'accessibilité qui bénéficient à tous les usagers. Avec les travaux qui seront achevés d'ici 2026, moins de la moitié des stations, 31 sur 68, seront équipées d'ascenseurs. Le MTMD explique que sa décision définitive sera annoncée dans quelques semaines. En ce qui a trait au financement par le ministère des phases 3 et 4 du programme Accessibilité, le ministère n'est pas en mesure de se prononcer sur la question d'ici l'approbation du plan des investissements en transport collectif, PITC, écrit le porte-parole Louis-André Bertrand. La décision du Conseil du Trésor sera communiquée au ministère en juin. Il communiquera avec les sociétés de transport par la suite. Vous écoutez le programme pour l'accessibilité du métro à l'arrêt, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 11 mai 2024 dans Le Devoir. Un bien pour tous. L'accessibilité au métro se fait par l'ajout de divers équipements. Des rampes d'accès, des guichets élargis, des systèmes de signalétique, des ascenseurs, etc. Selon la STM, 22 % de sa clientèle déclare une limitation fonctionnelle permanente. Les adaptations ne servent donc pas qu'aux personnes en fauteuil roulant, selon un cliché tenace. Tous les usagers peuvent en bénéficier, les parents avec de jeunes enfants, les voyageurs avec des valises ou d'autres lourds paquets, les cyclistes avec leurs deux roues, les personnes âgées, les gens fatigués ou temporairement handicapés par une blessure ou un malaise, les ambulanciers qui interviennent dans le réseau, etc. Tout le monde est concerné par ça, finalement, résume Mme Turcotte en citant une étude montrant que chacun des ascenseurs du métro de Montréal est utilisé 700 fois par jour en moyenne. On peut penser que ce ne sont pas 700 personnes en fauteuil roulant qui les actionnent, dit-elle. En plus, la Société de transport de Montréal n'a toujours pas reçu du ministère des Transports la subvention de 320 millions engagée pour la transformation de stations selon la phase 2 du PA, commencée en 2019 et échelonnée jusqu'en 2026. Comme cette deuxième phase n'a pas reçu d'autorisation du ministère pour l'instant, aucune aide financière n'a encore été versée par le ministère pour celle-ci, explique le porte-parole du MTMD. La STM a déposé une mise à jour de sa demande d'aide financière le 29 septembre 2023. La demande est en cours de traitement. La STM a adopté un règlement d'emprunt pour lancer les chantiers qui se poursuivent. Nous sommes toujours en attente de la lettre de subvention de la phase 2 du programme Accessibilité, écrit Amélie Régis, porte-parole de la STM. Nous avons entrepris les travaux afin de conserver l'expertise développée par les équipes de la STM. C'est l'adoption d'un règlement d'emprunt en 2019 qui a permis d'avancer les travaux d'ici au remboursement par le ministère. L'arrêt du PA s'arrime à des difficultés de financement des opérations et des services en transport en commun du Québec. Le déficit d'exploitation totale des sociétés de transport de Montréal, de Laval, de Longueuil et d'Exo s'élève à 561 millions, selon l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. La moitié de cette somme, 284 millions, provient de problèmes conjoncturels liés à la baisse de fréquentation pendant et après la pandémie. Dans la prochaine décennie, la STM devra aussi trouver des fonds pour remplacer les 360 voitures MR73 et ajouter 24 trains additionnels pour augmenter sa flotte et répondre à la croissance anticipée de l'achalandage. Cette modernisation nécessite des planifications sur des années et l'ajout d'autres équipements structurels, par exemple pour agrandir les garages. La nouvelle agence Mobilité Infra-Québec, créée cette semaine, ne devrait pas gérer ces dossiers de rénovation infrastructurelle. Elle doit se concentrer sur le développement de nouveaux projets de transport collectif, qui représentent en projection provisoire des dépenses de 37 milliards. Des chantiers complexes. Les coûts des chantiers de construction explosent. Les 5 chantiers de rénovation du PA3 nécessiteraient une dépense moyenne minimale de 60 millions chacun. Ces montants démontrent la complexité d'installer des ascenseurs dans un environnement souterrain comme le métro de Montréal. Creusé dans le roc, explique la porte-parole de la STM. Au-delà d'ajouter des ascenseurs dans des stations en exploitation qui n'ont pas été conçues pour être accessibles, il faut planifier l'acquisition et, parfois, l'expropriation de terrains dans des milieux urbains densément peuplés. La STM tente toujours de trouver la solution optimale selon la configuration de chaque station pour limiter la durée, les impacts et les coûts des travaux. la reconstruction de la station Édouard-Monty s'avère particulièrement compliquée. Les travaux pour installer un ascenseur jusqu'à la ligne jaune à Berry-UQAM constituent aussi un grand défi d'ingénierie. La station Bonaventure est la gare du réseau express métropolitain REM, laquelle est pourtant toute récente, ne sont toujours pas interconnectées de manière à faciliter la mobilité. Le plan pour le perçage des premiers ascenseurs dans le métro de Montréal date de 2005. Québec a financé le programme Accessibilité en 2017 pour étendre les mesures qui y sont destinées. Certains projets en transport en commun reçoivent des contributions fédérales, mais les demandes de subventions sont toujours transmises par l'intermédiaire du MTMD, qui fournit généralement 85 % des fonds. Le réseau montréalais compte maintenant 27 stations aux normes. D'Iberville, Place Saint-Henri et Outremont seront ajoutées cette année, et Atwater, Berry-UQAM pour la ligne jaune et Édouard-Monty devraient suivre en 2025 ou en 2026. Les travaux de cette phase, qui ont nécessité 320 millions, peuvent être les derniers avant très longtemps pour favoriser la mobilité durable dans le métro, sont déjà réalisés à plus de 75 %. C'était le programme pour l'accessibilité du métro à l'arrêt. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 11 mai 2024 dans Le Devoir.
Le secret d'un week-end presque parfait. Un texte de Catherine Enfield paru le 1er septembre 2024 dans La Presse. Comment bien profiter de ces fins de semaine pour se sentir reposé le lundi et surtout pour l'être jusqu'au vendredi suivant? C'est Philippe Bilodeau, un lecteur de La Presse, qui nous a proposé ce sujet de reportage. Nous l'avons rencontré dans un parc de la Rive-Sud pour en savoir plus sur son questionnement. Philippe Bilodeau a 28 ans. Il est architecte paysagiste et, comme la majorité des travailleurs, il a deux jours de congé par semaine, samedi et dimanche. Le vendredi soir, après avoir travaillé toute la semaine devant l'ordinateur, il se sent parfois un peu fatigué. Ce manque d'énergie ou cette paresse le fait parfois hésiter avant d'accepter les invitations à sortir. En fait, ça me semble contre-intuitif d'organiser deux ou trois événements sociaux par week-end alors qu'on devrait se reposer. Mais je me demande si le secret n'est pas là, dit-il. Philippe Bilodeau, qui vit seul, prend conscience d'une chose. Il se sent plus énergisé lorsqu'il voit des amis le week-end que lorsqu'il prend ça relax à jouer à des jeux vidéo, naviguer sur l'Internet et faire une marche de santé. L'effet week-end. Pour mener à bien cette quête du week-end énergisant, nous joignons d'abord un chercheur qui a consacré sa carrière à mesurer le bien-être. L'économiste John F. Halliwell, rédacteur en chef du World Happiness Report et professeur émérite de l'Université de la Colombie-Britannique. Il s'est justement intéressé à l'effet week-end dans ses recherches. L'évaluation que les gens font de leur vie ne varie pas en fonction du jour de la semaine, mais leurs émotions, oui. C'est l'effet week-end. Lorsqu'on sonde l'humeur des gens du vendredi au dimanche, ils rapportent habituellement davantage de bonheur, de joie et de rire, et moins d'inquiétude, de tristesse et de colère qu'en semaine. Il n'est pas fou de vouloir faire le plein d'activités et d'émotions agréables pendant le week-end pour affronter la semaine qui suivra, mais John F. Halliwell propose un autre angle de réflexion. Si on ressent un effet week-end, ça signifie que nos semaines sont moins heureuses que nos week-ends, ce qui n'a pas lieu d'être. John F. Halliwell nous rappelle « La plupart des gens sont prêts à investir plus de temps pour améliorer leur week-end parce qu'ils ont le pouvoir ultime sur ceux-ci. Et ils ont tendance à accepter leur travail comme il est. Eh bien, mon conseil à ces gens est celui-ci. Le travail peut et devrait être amusant. Regardez d'abord de ce côté. » John F. Halliwell et son équipe ont analysé les données d'un sondage sur le bien-être aux États-Unis, le Gallup Healthways US Daily Poll. Et ils ont constaté ceci. Le contexte social, à la maison comme au travail, est déterminant dans l'effet week-end. Quand son milieu de travail est fiable et ouvert, et quand on considère son supérieur immédiat comme un partenaire, l'effet week-end est quasi inexistant, indique John F. Eliwell. En d'autres mots, ces gens ont autant de plaisir au travail que pendant le week-end, résume-t-il. Ça ne veut pas dire de faire des pauses café interminables. Ça a plutôt à voir avec le travail que vous choisissez de faire, avec qui vous choisissez de travailler et plus directement avec la manière dont vous vous liez avec vos collègues, explique M. Eliwell, qui souligne que les milieux de travail collaboratifs fonctionnent mieux que les milieux compétitifs. Les gens sous-estiment le bonheur qu'ils peuvent retirer des relations sociales, souligne John F. Eliwell. Ils préfèrent fixer leur téléphone, même lire les instructions de l'ascenseur, plutôt que de parler aux gens qui les entourent. Je dirais ceci à votre lecteur. Essayez de vous ouvrir aux conversations avec des inconnus et avec vos voisins, et regardez l'effet que ça vous fait. Et ce temps de socialisation supplémentaire, ne le prenez pas dans vos heures de sommeil. Empiétez plutôt sur le temps que vous passez assis devant TikTok ou autre. On le sait, quand on abuse de ces choses, c'est très mauvais pour le bonheur. Pour le sommeil aussi, d'ailleurs. Misez sur l'équilibre. Revenons à notre lecteur Philippe Bilodeau. Il aime son milieu de travail qu'il trouve collaboratif. Il est même du genre à préférer le bureau au télétravail, ne serait-ce que pour aller dîner avec ses collègues. Comment meubler au mieux ses week-ends pour faire le plein d'énergie? Activités tranquilles ou événements sociaux? Président de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, OEQ, Alexandre Nadeau explique qu'il existe trois types d'énergie, physique, intellectuelle et émotionnelle. Et tant sur le plan physique que sur le plan cognitif, dit-il, un principe bien démontré s'applique. Plus on en fait, plus le corps s'adapte, et moins l'activité devient exigeante. Ne rien faire, c'est épuisant. C'est en se fixant des objectifs réalistes qu'une synergie s'installe et qu'on devient finalement satisfait de sa vie au jour le jour, résume l'ergothérapeute. Il faut donc se mettre en action et miser sur l'équilibre. Alexandre Nadeau conseille en effet d'étaler les activités actives et les activités passives, ce qui peut inclure des jeux vidéo et des séries télé dans la semaine, et de ne pas reporter au lendemain ce qui nous fait plaisir. Quand on arrive à la fin de la semaine, on ne devrait pas avoir l'impression de devoir récupérer toute notre semaine en matière de plaisir et en matière de repos, illustre-t-il. Même son de cloche, du côté de la psychologue organisationnelle Julie Carignan, conseillère en ressources humaines agréées et associée chez Humans. Lorsque leurs enfants étaient jeunes, Julie Carignan et son mari se réservaient les mercredis soirs pour une soirée en tête-à-tête au restaurant. C'était leur rituel. Il faut se trouver des moments de ressourcement le plus fréquemment possible parce que, la fin de semaine, on a aussi des responsabilités personnelles et familiales, du ménage, rappelle Julie Carignan. Elle invite d'ailleurs les gens à gérer leurs attentes envers le week-end et à ne pas culpabiliser s'ils sont fatigués le dimanche soir. Il n'existe pas de week-end parfait, selon elle. Les besoins varient d'une personne à l'autre, mais aussi d'une semaine à l'autre. Des fois, c'est un besoin de socialisation, des fois un besoin de soutien, illustre Mme Carignan. Et si j'ai donné des conférences toute la semaine, je vais vouloir être dans mon livre le week-end. Les activités en solo ont aussi leur rôle à jouer dans le bien-être. Elles permettent de recharger ses batteries d'une autre façon, estime l'économiste John F. Eliwell, qui les voit comme un complément aux interactions sociales. Chaque personne doit réfléchir au dosage qui lui convient, résume-t-il. Quand on trouve cet équilibre, l'énergie émotionnelle se renouvelle plus facilement, souligne l'ergothérapeute Alexandre Nadeau. ce n'est plus à démontrer. Le contact avec la nature et l'activité physique réduisent le stress et améliorent le bien-être, tant physique que mental. Faire une marche, ne serait-ce que de 15 minutes, est souvent suffisant pour retrouver l'énergie d'entreprendre une activité plus exigeante, souligne Alexandre Nadeau. C'est un peu comme les athlètes de haut niveau. Plus ta vie est intense sur les plans personnels et professionnels, plus tu as intérêt à prévoir des moments pour permettre à ton corps et à ton esprit de récupérer, conclut Julie Carignan. 2 jours, est-ce assez? Il existe actuellement un mouvement international pour promouvoir la semaine de 4 jours de travail sans diminution de salaire. Les projets pilotes réalisés à ce jour associent cet horaire à une augmentation du bien-être des employés et de leur productivité, souligne John F. Eliwell. C'était « Le secret d'un week-end presque parfait », un texte de Catherine Enfield, paru le 1er septembre 2024 dans La Presse.
Longueuil ambitionne de sécuriser toutes ses zones scolaires, un texte de Marco Fortier, paru le 27 août 2024, dans Le Devoir. La ville de Longueuil prend les grands moyens pour sécuriser les environs de ses écoles primaires, où la circulation automobile prend de l'ampleur au moment de l'arrivée et du départ des élèves. Un plan ambitieux prévoit une série de mesures pour apaiser la circulation motorisée et favoriser l'accès à pied ou à vélo aux 56 écoles primaires du territoire, a appris Le Devoir. Déterminé à mettre fin au chaos devant les écoles, la mairesse Catherine Fournier a donné le feu vert à 2 projets pilotes de rue-école où l'accès sera interdit aux voitures aux heures de pointe du matin et du soir. Les écoles Hubert-Perron, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil, et Monseigneur Forget, à Saint-Hubert, se sont portées volontaires pour tester ce concept qui a fait ses preuves dans plusieurs villes, dont Montréal et Québec. À compter de la fin septembre ou du début octobre 2024, la rue donnant accès aux écoles visées par le projet sera temporairement fermée 2 jours par semaine, pour une période de 30 à 60 minutes, aux heures d'arrivée et de départ des élèves. Ce projet vise à éviter la confusion qui menace la sécurité des élèves lorsque tous les parents arrivent en même temps en voiture pour conduire leur enfant à l'école. Certains se garent en double fil. Des enfants traversent la rue entre 2 autos. Les parents devront déposer leurs enfants quelques dizaines de mètres plus loin, dans les rues avoisinantes. La circulation automobile sera mieux répartie, ce qui évitera de concentrer les voitures et les risques d'accident devant l'entrée des écoles. On sent une grande volonté des citoyens de sécuriser les rues, notamment autour des écoles. Quand on fait du porte-à-porte, c'est la question qui revient le plus souvent, dit Catherine Fournier. Une vision globale. Les rues-écoles ne sont qu'une des mesures visant à renforcer la sécurité autour des établissements primaires. La mairesse de Longueuil doit annoncer un vaste plan voué à rendre plus sûrs les déplacements des élèves. Une série de stratégies sera mise en œuvre pour apaiser la circulation près des écoles et favoriser les déplacements à pied ou à vélo. Saillies de trottoirs au coin des rues, ralentisseurs comme les dos d'âne, radars photo, marquages au sol, traverses de piétons munies de feux clignotants, ajout de pistes cyclables, séparées de la chaussée et de supports à vélo. La ville compte analyser systématiquement les déplacements des élèves autour des 56 écoles primaires de son territoire et mettre en place des correctifs en fonction d'une série de critères. Cette façon de procéder vise à corriger des iniquités entre secteurs de la ville, explique Catherine Fournier. Lorsque la mairesse et son équipe sont arrivées au pouvoir en 2021, il n'y avait pas de vision d'ensemble de la sécurité des zones scolaires. La ville renforçait la sécurité près des écoles où les parents se plaignaient. Le problème, c'est que les gens qui font les requêtes à la ville sont souvent dans les quartiers les plus favorisés. La littérature scientifique démontre que les citoyens des quartiers les moins favorisés sont moins prompts à contacter la ville, fait valoir Catherine Fournier. Faire bouger les jeunes. L'administration longueuilloise a mandaté Vélo-Québec pour l'accompagner dans sa démarche de sécurisation des zones scolaires. L'organisme a recommandé d'établir une liste de priorités établie d'après une série de critères. Le nombre d'élèves n'ayant pas droit au transport par autobus jaune pour chaque établissement scolaire parce qu'ils vivent à moins de 1,6 km de l'école, l'indice de faible revenu des familles par zone scolaire et l'indice de milieu socio-économique qui tient compte de la scolarité de la mère. Au Québec, la vaste majorité des élèves du primaire, soit 80%, habitent à distance de marche ou de vélo de leur école, mais à peine le tiers d'entre eux marchent pour se rendre en classe, selon l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Dans la plupart des cas, papa ou maman emmènent leurs enfants à l'école en voiture. La santé publique recommande pourtant aux jeunes de faire au moins 60 minutes d'activité physique par jour, une cible qui est loin d'être atteinte. Les déplacements actifs sont une façon simple et efficace d'inciter les jeunes à bouger. Dans les dernières décennies, la fluidité des automobiles a été priorisée au détriment de la sécurité et de la fluidité des autres modes lors de la réalisation de projets d'aménagement, déplore Vélo-Québec dans ses propositions à la ville de Longueuil. L'organisme recommande la réduction de la taille, voire le retrait complet des débarcadères pour parents automobilistes devant les écoles primaires pour favoriser le transfert modal vers la marche ou le vélo. La ville compte sécuriser les déplacements autour de 10 écoles pour les 3 prochaines années, au coût de 1,3 million de dollars par année, et d'augmenter la cadence par la suite. C'était « Longueuil ambitionne de sécuriser toutes ses zones scolaires », un texte de Marco Fortier, paru le 27 août 2024 dans Le Devoir.